Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Je vous propose ce soir une émission sur le thème « Femmes en humanité ». Oui, hommage à la femme ce soir. Pour cela, nous n'entrerons pas dans le débat « Hommes-femmes, les lois du genre ». Je vous renvoie au numéro remarquable du Point de juillet-août 2013. Non, plus simplement, nous allons mettre en valeur la femme en humanité. Parler de la femme demeure tout un art, car la femme est un être poétique, parfois incompréhensible, c'est un homme qui vous parle, toujours fascinante, insaisissable et généralement pleine de mystères. Mais le mieux, ce n'est pas d'en parler, c'est de leur donner la parole. Alors ça a été un choix pour moi très difficile, et j'ai choisi 7 femmes. 7, oui. 3 ne sont plus de ce monde, Hildegarde, Catherine et Suzanne, dont on reparlera dans l'émission. 4 sont encore vivantes, Sylvia, Marie-Véronique, Capucine et Nathalie, qui en plus est en studio. Le chiffre 7 symbolise, paraît-il, la totalité de l'espace et du temps. C'est un premier hommage à la femme. Une est d'Europe, Hildegarde, une est de Paris, une de Bourgogne et 4 de la région PACA. Une manière de vous dire, chers auditeurs, que Agora Côte d'Azur est une émission de plus en plus, j'allais dire, nationale, et nous recevons des échos qui viennent de toute la France et nous en sommes ravis. Nathalie, bonsoir. Vous nous avez fait le plaisir d'être parmi nous ce soir, y compris en studio. Alors, vous êtes ingénieure agronome.
Oui,
bonsoir. Spécialiste des plantes, je crois.
Tout à fait.
Et depuis 9 ans, depuis l'âge de 9 ans, vous écrivez des poésies. Il y en a 350 à ce jour.
Tout à fait.
Et en plus, vous jouez du piano.
Exact.
Bon, alors nous allons parler de tout cela, en l'occurrence, et nous allons avoir au téléphone d'abord Sylvia, qui est la première personne que nous allons accueillir à distance ce soir. Sylvia, bonsoir.
Oui, Sylvia, bonsoir Michel. Je vous remercie d'honorer la femme. Quel grand sujet.
Oui, alors nous allons commencer par vous, Sylvia. Vous avez publié 2 livres à la fois. Un livre qui s'appelle surtout, que dont nous allons parler, Ombre, enfant d'ailleurs, sous couvert d'un pseudo Sylvia Romanesque, avec ESH. Et puis, à côté, vous avez publié un ouvrage de poésie sur le couvert de Sylvia Romanesque, cette fois ES. C'est bien ça?
Exact.
Alors écoutez, ce livre d'abord, Ombre, enfant de lumière, est un livre qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a profondément touché. Dès la première page, on apprend que votre père, vous ne le connaissez pas, et que votre mère a eu à votre égard quasiment jamais de marque de tendresse.
Absolument.
Et c'est le début d'une vie totalement impressionnante. Alors je vais demander à Nicole, d'abord, qui a lu votre livre aussi, de réagir et de dire, vous demander... Quelle a été votre réaction par rapport au livre Ombre, enfant d'ailleurs?
J'ai été bouleversée par ce récit poignant qui retrace la vie éprouvante d'une femme de son plus jeune âge à son grand âge. J'ai été vraiment bouleversée, oui.
Alors, Sylvia...
Merci beaucoup.
On peut dire votre âge, vous avez 71 ans, puisque vous le mettez dans le livre.
Oui.
Vous êtes une femme qui a touché à beaucoup d'art, puisque vous avez été chorégraphe, danseuse, vous avez touché à la musique, vous avez touché à plein de choses. Et en l'occurrence, comment se fait-il que vous êtes arrivée sur le tard à l'écriture?
Eh bien... C'est une grande question. Pourquoi écrire ce livre, me direz-vous?
Oui.
Eh bien, sachez bien que ni mes proches, ni mes amis ne connaissent cette période très sombre de ma vie. Ma mission est de transmettre aujourd'hui ce vécu à mes enfants, petits-enfants, enfin à ma famille. Je ne vous cacherai pas d'ailleurs que les larmes n'ont pas manqué au moment de la réalisation de ce livre, car je revivais certains épisodes très durs à un tel point que je m'étonne aujourd'hui d'être toujours en vie. Et si je m'en suis sortie, c'est grâce à beaucoup de volonté et surtout à mes enfants et pour mes enfants qui ont frôlé la mort eux aussi. Enfin, je dirais, aujourd'hui c'est un exutoire et me voilà libérée. Voilà.
C'est assez extraordinaire, Sylvia, parce que vous avez pris donc l'écriture tardivement dans votre vie pour écrire ce livre et puis des poésies. Et vous avez, je crois, en projet un roman policier, il me semble.
Oui, c'est en cours.
Alors, j'ai pensé à une phrase de Charles Juillet, qui est un personnage que j'apprécie beaucoup, qui au passage est né en 1934, et je le dis aux auditeurs parce que ce n'est pas toujours connu, à 3 mois, il est placé dans une famille de paysans suisses qu'il ne quittera plus. Et ensuite, à 12 ans, il rentre dans une école militaire dont il ressort à 20 ans pour être admis dans une école de santé militaire, mais 3 ans plus tard, il abandonne tout et se met à l'écriture. Et l'écriture chez Charles Juillet joue un rôle énorme, et en particulier il a écrit ceci, et j'ai pensé à vous Sylvia, à propos de cette citation. Il écrit « Un jour, alors qu'on n'avait plus d'espoir de la trouver, la source est là, au bout du sentier. La voix parle clair, la semi-obscurité a fait place au jour, l'être sait de toute certitude qu'il a vaincu la peur, qu'il n'a plus à chercher. »
Ah oui, c'est très beau. Effectivement.
C'est une citation, il y en a une autre de Christian Bobin. Plus on approche de la lumière et plus on se connaît plein d'ombre. On pourrait presque l'inverser. Plus on se connaît plein d'ombre et plus on s'approche de la lumière. Qu'en pensez-vous ?
Absolument. D'ailleurs, c'est pas par hasard que je m'appelle Ombre dans ce livre. Parce que, effectivement, je ne sais pas pourquoi, c'est un mot qui m'est venu comme ça, automatiquement. Pourquoi? Il y a probablement une raison à cela. Si on tient compte de ce que vous venez de lire, ça expliquerait bien. Voilà.
Nathalie, votre réaction sur ce témoignage, on dit que c'est la fin du courage, le titre d'un livre qui est paru récemment. Vous, comment vous pensez, comment vous réagissez devant ce témoignage?
Votre humilité et votre courage ont fait de vous un magnifique exemple de résilience. Et je ne pense pas que ce soit la fin du courage. Vraiment pas. La résilience, c'est le début du courage.
Oui. Le courage, il n'y a jamais de fin. À partir du moment où on a du courage, je pense qu'on l'a toute sa vie.
Je dirais même plus, l'ombre incarnée ne devient-elle pas la lumière de sa propre vie?
Probablement. Je pense aussi, oui.
Sylvia, ce livre commence à circuler, on le trouve un peu partout maintenant, donc on va le recommander à nos éditeurs, c'est les éditions Ellipse qui publient votre livre, les deux livres d'ailleurs, hein,
oui.
En l'occurrence, donc il est sous couvert de votre pseudo, et d'autre part, donc rappelez-nous ce titre très beau, Ombre.
Enfant d'ailleurs.
Voilà. Alors, comment se passe l'accueil de ce livre qui commence à se faire autour de vous? Et vous qui maintenant voyez le livre, j'allais dire dans des librairies, le voyez devant vous, comment vous réagissez? Quelle impression avez-vous?
Écoutez, sur le moment, on a du mal à réagir, et puis on y pense, et puis ma foi, je trouve que c'est très gratifiant finalement. Je pense qu'il me grandit. Mais alors là, je vais vous dire quelque chose qui va probablement vous étonner. Et je ne sais pas si la personne auprès de vous va trouver normal ce que je vais dire. J'ai l'impression d'être purifiée. Qu'en pensez-vous?
Je ne fais aucun commentaire, mais je pense que dans la mesure où l'écriture est un travail sur soi et une sorte de thérapie, je comprends parfaitement. Et je dois dire que quelquefois, il m'arrive à titre personnel d'écrire et de ressentir cette espèce de clarification, voire de purification. Je pense que l'écriture est quelque chose de fondamental dans une vie et ne remplace aucun des autres arts, en l'occurrence.
Tout à fait, tout à fait.
Alors, oui. Sylvia, on laissera à nos auditeurs le soin de découvrir la fin du livre, parce que je racontais le début, c'est-à-dire votre entrée dans la vie, qui n'est pas simple et qui s'accompagne après d'événements totalement impressionnants. On se dit, mais comment cette femme a pu rester debout? Mais vous nous donnez déjà une réponse ce soir. Le courage n'est pas venu seulement au cours des épreuves, il était avant les épreuves.
Ah oui, tout à fait, oui. Mais je m'étonne moi-même aujourd'hui. Comme je le dis, je suis très étonnée d'être encore vivante à ce jour. Et d'ailleurs, je voudrais passer un message aux femmes.
Je vous en prie.
Si vous le permettez. Je dis, trop d'atrocités sont commises sur les femmes et beaucoup d'entre elles meurent chaque jour. Mon message serait le suivant. Mesdames, partez, sauvez-vous avec vos enfants dans des centres qui vous accueillent. Je l'ai fait et croyez-moi, à ce jour, je ne serais plus là pour vous parler si je n'avais pas pris cette décision. Il faut beaucoup de courage et il faut le faire. Vos enfants le méritent tellement. Voilà ce que je dirais.
Merci Sylvia. Pouvons-nous vous demander, pour clôturer, de nous raconter une de vos poésies?
Mais bien sûr, avec plaisir. Alors voilà, et c'est trouvé, je me suis... Bon, j'admire beaucoup la nature, hein, je suis... Voilà, je me suis trouvée un jour devant une belle rose rouge que je nomme Rose Sang. Une rose pourpre s'ennuyait dans son habit qui l'enserrait. Alors, avec beaucoup de volupté, elle effeuilla son joli corset parfumé et ses doux pétales dans un rythme endiablé diffusèrent un très subtil parfum pour nous enivrer. Voilà, il est très court, mais voilà ce que la rose m'a dit.
Merci beaucoup Sylvia. Nos auditeurs auront dans la note de synthèse qui accompagne cette émission ultérieurement à la fois le compte-rendu du livre que Nathalie a fait, le mettra intégralement, et puis on mettra toutes les références. Rappelez-nous ce beau titre et la maison d'édition.
C'est l'édition Edilivre.
Oui.
Voilà.
Et le titre de votre livre?
Ombre, enfant d'ailleurs.
Et le titre de votre...
Et un recueil de poésie, s'appelant simplement Poésie, voilà.
Voilà. Et pour le trouver, rappelez-nous votre pseudo pour le livre et le pseudo pour le livre de poésie.
Voilà. Alors, Sylvia Romanesh, se terminant par E-S-H pour le livre, et Sylvia Romanes, sans H, R-O-M-A-N-E-S, pour les poèmes. Voilà.
Merci beaucoup, Sylvia. Bonne soirée et merci beaucoup
merci
de ce témoignage.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Voilà, un premier témoignage de femme en humanité, pris sur le terrain, dans le vécu, au cœur du quotidien, en France. Il y en aura d'autres. Mais on va revenir vers vous, Nathalie, sur vos poésies. 350, alors vous en avez choisi quelques-unes. Est-ce que je peux vous demander d'en lire une d'abord, et puis nous allons parler d'une des personnes qui est morte, sur laquelle je voudrais un peu insister, puis une deuxième poésie. La première?
La proposition. Le plaisir est un jeu. Le jeu est amour. Le sourire vient un peu. Le peu dure un jour. Pourquoi faire durer? Durer est en nous. Pourquoi tant perdurer, si pur est en nous? Quand choisir le moment? Nous, ciment d'envie. Quand décider sciemment? Vraiment, en nous, vie. Où vouloir cet instant, tant d'intensité? Où pouvoir tout ce temps, tant d'identité? Quoi? Oui. Pourquoi? Ici, aujourd'hui, pourquoi pas?
Merci Nathalie. Je voudrais seulement parler un petit peu d'une des personnes qui nous a quittés, Catherine Gide, qui résidait entre autres à Cabris, et Peter, qui a été son dernier mari pendant 25 ans, nous a envoyé un très beau témoignage. Il écrit « Catherine aimait la vie, elle savait vivre, elle savait transmettre sa joie de vivre. Sa disparition nous laisse un grand vide. Je l'ai connue. Elle est intervenue dans cette émission. Au revoir Catherine. »
Au revoir.
Я двигаю пару дели ли.
Alors, sur ce fond de musique, qui est une musique qui nous vient de Lettonie, où il y a un grand festival de toutes les chorales, ça fait partie du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dites-nous une autre poésie avec cet accompagnement de musique.
Féminine. La femme, égale à elle, lui, l'homme est son égal, car il l'aime et il sait qu'elle aussi s'est aimée. Femme forte et courage, l'homme, lui, fort et sage, apprend d'elle, féminine, que tendre et masculine. Elle a voulu lui plaire, choisir d'être elle, se taire. Il veut la respecter car connaît sa beauté. L'homme l'apprend, femme et féminine apparaît.
Merci Nathalie. Toujours sur ce fond de musique, nous allons apporter un témoignage de Suzanne qui nous a quittés et qui a été enterrée à Opio hier matin. Et Suzanne était une paysanne venue de l'Italie pour, j'allais dire tout simplement, replanter ici la vie. Et Daniel, qui est une écrivain de la région des Pays de Grâce, nous envoie ce témoignage. Je marchais le long de la route d'Opio quand je l'aperçus cueillant la rose de mai. Comment résister à la tentation d'aller vers elle ? Face à sa bienveillance et tout en apprenant d'elle les gestes de cette belle cueillette, la confiance s'était installée. Bien des visites suivirent et je l'observais avec émotion dans les champs, en cuisine et dans ses relations, empreinte d'amour et d'humour, avec son époux, ses enfants, ses petits-enfants. Suzanne, si généreuse envers tous ceux qui, aimantés par sa bonté, venaient à la recherche de soutien, d'une bonne parole, mais également de soins, puisqu'elle avait reçu le don de lever le soleil. Soin toujours offert, car celui, disait-elle, qui vend son don, le bon Dieu qui lui a donné, le lui reprend. Elle était la femme paysanne, femme épanouie, dans l'accomplissement de son destin, qui était pour elle de semer le bonheur. Voilà, elle a été enterrée au Pio, et le nombre de gens qui étaient là était trop immense pour être accueillis dans l'église. Au revoir, Suzanne. Chers auditeurs, ne quittez pas l'antenne. Dans la deuxième partie, nous allons trouver trois autres femmes qui vont nous parler de ces femmes en humanité présentes, puisque nous avons parlé des trois qui nous ont quittés, sauf Hildegarde, dont je dirai quelques mots dans la deuxième partie. Chers auditeurs, reprenons cette émission sur Femmes en humanité et nous aurons dans un instant une autre personne, Marie-Véronique, qui est à Marseille, que nous allons avoir dans un instant. Mais avant, parlons d'une des femmes que nous avons retenues ce soir, qui bien entendu est morte, qui relevait du Moyen-Âge. C'était Hildegarde. Alors je vous invite à aller explorer sur Google qui était Hildegarde. C'est une femme absolument extraordinaire du Moyen-Âge, comme il y en avait déjà à ce moment-là. Une visionnaire, une poétesse, une musicienne. Bref, elle avait des talents absolument extraordinaires dans plein de domaines. C'était une femme extrêmement cultivée. Et je pense que quand vous découvrirez qui était Hildegarde, vous vous direz ça existait déjà au Moyen-Âge, mais alors, finalement, notre époque est en régression, puisqu'en plus, elle présidait un couvent. Mais allez voir l'image d'Hildegarde. Alors, comme tout ça fait très sérieux, je vais prendre appui sur une petite histoire. Je crois que c'est la première fois dans cette émission que je le fais. C'est une autre manière de rendre hommage à la femme. C'est un auditeur qui nous a envoyé cette petite histoire que je trouve très belle. Il s'agit de quatre hommes et d'une femme, tous catholiques, qui prennent le café sur la place Saint-Pierre. Le premier homme, catholique bien sûr, dit à ses amis « Mon fils est prêtre » et quand il rentre dans une pièce, tout le monde lui dit « Mon père ». Oh, le second dit « Mon fils est évêque » et quand il entre dans une pièce, les gens lui disent « Votre grâce ». Le troisième, toujours catholique, dit oh, « Moi, mon fils est cardinal » et quand il entre dans une pièce, chacun se penche et lui dit « Votre éminence ». Et le quatrième homme dit avec fierté « Mon fils est le pape » et quand il entre dans une pièce, il l'appelle « Votre sainteté ». Il restait une femme. Les quatre hommes regardent la femme. Elles lui disent « Et toi ?»« Moi, j'ai une fille. Elle est grande, elle est mince. Elle fait 95 de tour de poitrine, 60 de taille, 90 des hanches. Et en plus, elle a un visage lumineux. Et quand elle entre quelque part, les gens disent « Oh mon Dieu !» Voilà cette petite histoire. Pour passer à quelque chose maintenant qui va nous ramener dans le domaine des psys.
Allô ?
Oui, bonsoir.
Oui. Bonsoir Michel.
Alors, vous avez écrit un ouvrage, je crois que c'est le premier, dans la peau d'un psy, impression de séance de psychothérapie.
Voilà.
Alors, je vous ai demandé d'intervenir ce soir parce que vous faites un métier de l'attention, c'est-à-dire un métier d'écoute, un métier, oui, de vraiment prioritairement d'écoute. Vous recevez, j'imagine, plus de femmes que d'hommes.
Oui, tout à fait, oui. Une grosse proportion de femmes.
Comment vous l'expliquez ?
Comment je l'explique ?
Oui.
Je pense que la femme est a priori plus encline à se dévoiler. Il me semble qu'elle a une capacité de dévoilement et une sensibilité intuitive qui fait qu'elle va peut-être plus facilement oser passer la porte du cabinet d'un psy.
Marie-Véronique, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience depuis de nombreuses années comme psychothérapeute, l'essentiel ? Qu'est-ce que vous nous diriez en résumé ?
Écoutez, pour moi, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir recevoir des gens, qui arrivent à un moment difficile de leur vie. Je crois que nous connaissons tous, à un moment donné, des difficultés dans notre vie, que ce soit une maladie, une dépression, une séparation, un deuil, ou bien tout simplement un choix d'existence à faire ou une difficulté relationnelle. Et on se trouve souvent seul face à ces difficultés. On a besoin d'y mettre du sens. Et je pense que justement la thérapie permet de mettre du sens sur ces difficultés-là.
Comment vous voyez l'avenir de la psychothérapie dans notre société ?
Je pense que c'est... La gestalt-thérapie, en tout cas, est une thérapie qui s'adresse à chacun et qui va essentiellement mettre l'éclairage sur la relation, ce qui se passe dans la relation et ce qui se passe dans la distorsion que nous mettons parfois dans la relation. Je veux dire par là que lorsque nous sommes en contact avec quelqu'un, nous avons parfois des difficultés nous avons parfois des difficultés à communiquer, à se comprendre, à comprendre le monde. Et donc la psychothérapie, en tout cas la gestalt-thérapie, permet de mettre du sens sur toutes ces difficultés, ces blocages qu'on peut avoir, ces rétroflexions, ces projections. Donc mon travail pour moi, c'est d'être essentiellement à l'écoute de l'autre et pouvoir mettre du sens sur ce qui se passe et surtout prendre conscience de ce qui se passe dans sa propre vie.
Le fait d'être une femme apporte quoi à votre profession, selon vous ?
Je ne sais pas si le fait d'être une femme apporte un plus. En tout cas, je ne sais pas si ce témoignage d'une femme que je suis apporte un plus. Quoi qu'il en soit, je pense que ce qui est important, c'est que, en tant que femme, on puisse continuer à oser nous dévoiler. Moi, j'ai été très touchée tout à l'heure du témoignage que j'ai entendu justement de Sylvia, je crois. Hein,
oui, c'est ça.
De Sylvia qui ose dire, alors qu'elle a une histoire difficile apparemment, je n'ai pas encore lu son livre, mais j'ai senti dans sa voix et dans les retours qui ont été faits que c'est une histoire qui a été difficile à dire, qu'elle a gardée en secret. Elle a osé dire, elle a osé se dévoiler, et c'est ça que j'aurais envie de dire aux femmes aujourd'hui. J'aurais envie de dire continuez à oser, continuez à être, à vous dévoiler, à regarder votre part d'ombre, osez vivre vos émotions, osez vivre votre sensibilité, vos doutes. Je pense vraiment que la psychothérapie peut aider à cela. Et puis surtout, si vous permettez, ce que j'aimerais vraiment dire aux femmes, c'est oser votre féminité. Parce que c'est ce qui donne la profondeur à votre humanité. C'est ce qu'on voit, et d'ailleurs ce message s'adresse aux hommes aussi, hein, qu'ils osent leur part de féminité.
Alors, Marie-Véronique, une dernière question. Après, je présenterai votre livre pour que les auditeurs puissent le retrouver.
Oui.
Le poète disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Si moi, je vous dis, ce n'est peut-être pas tout à fait exact, est-ce que ça ne serait pas la féminité qui est l'avenir de l'humanité ? Comment réagissez-vous ?
Moi, je trouve que cette réflexion est très belle. Est-ce que c'est pas la féminité qui est l'avenir de l'humanité ? Ça me touche beaucoup, parce qu'effectivement, la féminité, elle n'est pas propre à la femme, elle est propre à l'humain. Et plus on va dans le sens de la féminité, qui pour moi est autour du dévoilement, de la sensibilité, de la faculté d'accueil et d'empathie, plus on donne de la profondeur à son humanité. Et je crois hélas que trop souvent notre part de féminité, à nous les femmes comme à vous les hommes, fait peur. Et j'ai mis un texte en antenne de mon site, un texte de Nelson Mandela que j'aime beaucoup. En fait, je crois vraiment que c'est notre propre lumière et non pas l'obscurité qui nous effraie le plus. C'est ce que dit Mandela. Et voilà, je suis tout à fait sensible à cette phrase-là.
Marie-Véronique, vous nous donnez les références de votre site ?
Oui. Alors, mon livre s'appelle « Dans la peau d'un psy ».
Oui.
Et il est édité, impression de séance de psychothérapie, et il est édité aux éditions L'Armatan.
Oui.
Voilà.
Très bien.
Mon nom, c'est Marie-Véronique Clancy.
Voilà. Et votre site, si les auditeurs veulent aller explorer votre site ?
Donc, mon site internet, oui. C'est www.psymarseille.com.
Merci beaucoup, Marie-Véronique, de ce témoignage.
Voilà, c'est moi qui vous remercie beaucoup. Et si vous permettez, je vous remercie tout particulièrement pour ce que vous nous avez fait entendre tout à l'heure, le Festival de Riga, parce que c'est 15 000 choristes qui chantent, et ce festival a été inclus, je ne sais pas si vous le savez, mais ce festival a été inclus dans la liste de l'UNESCO comme chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité.
Oui.
Et c'est une splendeur, et à entendre, et à voir. Je vous remercie beaucoup pour cette émotion que vous nous avez procurée.
Alors écoutez, notre technicien qui nous entend ne manquera pas, vers la fin de cette émission tout à l'heure, de nous le faire réentendre à tous, car effectivement, c'est une très très belle musique.
Parfait, mais merci beaucoup.
Merci beaucoup, Marie-Véronique.
Au revoir.
Au revoir. Alors, je reviens vers vous, Nathalie. Je vous ai pas posé une question, quand même, ingénieur, agronome, les plantes. Quel est votre projet professionnel ?
Je cherche un contrat de professionnalisation dans le secteur des parfums, des cosmétiques et ou des arômes pour la rentrée 2014-2015. Et...
dans la région des Pays de Grâce.
Tout à fait.
Hein? Bon, vous en faites partie, en l'occurrence. Donc, s'il y a des auditeurs qui entendent ce témoignage, je crois que c'est important. Et pourquoi les arômes, dans toute la gamme de ce que vous pourriez faire sur les plantes, pourquoi les arômes ?
Les arômes, c'est une partie de l'âme des plantes qui nous sert lorsqu'on se nourrit. Les cosmétiques, c'est ce qui révèle notre beauté. Et les parfums, c'est ce qui fait de la senteur, de la femme, une senteur et une fleur ouverte.
Comment faites-vous cohabiter les plantes, les senteurs, vos poésies et la musique ?
Cette sensibilité, c'est la sensation que nous donne la nature, qu'elle nous transmet. La nature est le vecteur de la sensibilité. Et... j'essaye de la recueillir du mieux que je peux.
Alors nous entendrons tout à l'heure de vous d'autres poésies sur ce fond de musique effectivement tout à fait extraordinaire. Nous allons continuer, nous arrivons vers la fin, une femme qui n'est pas là ce soir, qui habite en Bourgogne et dont nous avons reçu les éléments et nous avons décidé de retenir, j'allais dire, son témoignage pour en parler à l'antenne. Son livre paraîtra autour de Pâques l'an prochain. Elle a choisi provisoirement comme pseudo Capucine, et son titre du livre, c'est « Tes blessures, voix d'amour », au pluriel, voix d'amour, ou co-apprivoisement. Alors ceci peut vous sembler un peu mystérieux, mais si je vous parle de cette femme, et si je vous parle un petit peu de ce qu'elle va dire dans ce livre, vous comprendrez que c'est aussi une femme en humanité. Elle se présente comme un enfant mal aimé, en souffrance perpétuelle, devenue une femme en paix avec elle-même, désormais, et caressant du bout de son âme, je la cite, la petite fille toujours présente en elle, beaucoup de volonté, surtout une immense tendresse jamais brisée, un amour de la vie tel qu'en devenant femme, avec le temps, elle a appris la douceur, mais aussi le cas échéant, à sortir ses griffes comme une tigresse si la situation devenait intolérable. Voilà ce qu'elle écrit. Alors cette femme, peut-être pour mieux la comprendre, il faut raconter deux anecdotes que vous retrouverez dans son livre en avant-première, comme quoi, voyez, Agora Côte d'Azur annonce des livres qui ne sont pas encore parus, ce qui n'est pas toujours le cas de tous. Elle dit que dans sa vie, elle a eu une première histoire, qui est la suivante, une histoire avec un cheval, bien entendu, mais médiatisée par un homme, à moins que ce soit le contraire, à vous d'apprécier. L'histoire commence, dit-elle, par un amour entre un homme et une moi. Lui, excellent cavalier, et moi, rien en la matière. Par amour pour lui, j'apprends à monter en cachette. L'été arrivant, je m'inscris dans un manège, avec pour but de faire le saut d'obstacle au bout de 3 semaines. Réaction du moniteur, elle va se calmer, la dame. Finalement, elle lui répond, je veux savoir sauter. Et un jour, cet homme lui dit qu'il va dans la nature pour aller faire une balade. Et elle lui dit, emmène-moi. Mais tu sais monter ? Mais oui. Il n'a jamais rien su. L'histoire de cet homme s'est terminée un jour. Il est parti avec une certaine lâcheté. Et elle continue de monter. Et puis un jour, il y a eu une rencontre avec un cheval. Et c'est là où commence vraiment l'histoire, qui est très belle. Elle en avait par-dessus la tête, de la vie, des turbulences, de Paris. Et puis en plus, il y a un cancer, il fallait faire face. Elle avait décidé qu'elle guérirait. Et c'est là où se présente sur sa route Fidji, un cheval. Et elle se dit qu'il n'y a rien de mieux d'affronter une bête de 500 kilos pour essayer d'assumer son courage et de vaincre le cancer et de renaître. Et là, la vie, dit-elle, m'a joué un étrange tour. Une amie lui dit, tu veux vraiment qu'elle devienne ton amie, ce cheval, cette jument? Alors je te donne une jument maltraitée pendant 6 ans, et à toi de l'apprivoiser. Montre-toi à la hauteur ou pas. Cet animal, ce cheval, cette jument, avait été effectivement maltraité, il emportait toutes les traces dans sa chair. À force de gentillesse, dit-elle, de câlins, et d'une montagne de patience, tant elle avait peur de l'humain, encore plus des hommes, elle a réussi au bout de 2 ans à regagner sa confiance. Pour qu'elle sache que sur la terre, tous ne sont pas mauvais. Et là, elle a gagné, et le cheval l'a apprivoisé. Elle a apprivoisé le cheval. La suite, vous la découvrirez dans son livre qui paraîtra autour de Pâques l'an prochain. Voilà comment une femme, aussi avec courage, ose se retirer de la ville, revient en campagne, va vaincre son cancer et devient apprivoisée par un cheval en apprivoisant ce cheval. Voilà une autre histoire, un autre témoignage. Qu'en pensez-vous, Nathalie ?
Même si les chevaux, je n'en ai jamais monté, la fougue d'un cheval est pour moi comme le vent dans le feuillage.
Alors, vous nous dites une autre poésie ?
Oui. Passage. Je suis née enfant, je deviendrai femme. Quand, ma vie allant, l'aurait prise en main. Calme, dans les lames des mers, oh, mal aux illusions, désert. Sereine en moi, femme sereine, ma voix, ma vie, un sens aura.
C'est très joli. Vous les composez quand, vos poésies ?
Sur l'instant. Sur le moment. Pour moi, la poésie, c'est le moment qui nous choisit. C'est pas nous qui choisissons le moment. Soit ça s'écrit spontanément, ça vient, soit ça ne vient pas, et dans ce cas, ça n'est pas.
Alors, une autre poésie sur ce fond de musique, demandée tout à l'heure par Marie-Véronique, et que volontiers nous repassons à l'antenne.
La couleur. La couleur, un joli bijou. C'est avec le gris et le rose qu'avec robe grise, je joue. Car assortie à ma peau rose. J'aime l'une et l'autre couleur. Couleur, parfum, sont les bijoux du corps. Consistante senteur du visage et du cou, des joues. Car le maquillage est parure pour celle qui, par habitude de simplicité, beauté pure, n'aime pas rudesse, mais prude. Aime simple sobriété, du maquillage transparence, dessiner la sérénité, du visage la consistance. Respire en souplesse, c'est avoir confiance en soi et sa force. Jamais de défiance face à l'autre. Autrui, jamais ne détruit la patience. Fruit de l'amour, construit avec. Seul, jamais. Ensemble permet d'avancer. Plat, mais l'amour d'un gourmet qui pense et regarde l'avenir, qui garde son secret. Mais garde à lui qui s'abarde pour, elle, dit haut et fort. Le roseau avait raison. Faux n'est pas fort, mais l'eau est force et souplesse. Anguille et déesse, le roseau se tresse, le chêne en détresse. Respiration souple et force d'un couple. Commune, décuple l'effet de la pulpe d'orange pressée. La passion passée, le jus délaissé. La pulpe reste et restera intime, durera l'estime du couple qui rime, le couple qui prime.
Voilà, cette émission se termine. Si vous voulez, plutôt que de vous surcharger de livres, je me permettrai de vous recommander un livre qui est toujours d'une grande actualité, qui est paru chez Folio, donc qui n'est pas cher, dont le titre est « Ma chère maman ». Et de Baudelaire à Saint-Exupéry, il y a des lettres d'écrivains tout à fait extraordinaires. Donc un tout petit livre à garder, à lire et à relire. Et puis je vous recommande aux éditions Parole, toute la collection absolument extraordinaire qui s'appelle « Main de femme » dans lequel nous avions déjà parlé « L'homme semence ». Voilà, vous avez plein de matériaux devant vous à partir de ce soir. Allez au-devant des femmes en humanité. Bonsoir chers amis et à vendredi prochain.